partout au Québec.
Partout au Québec.
Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mon Grain PM.
Bonjour tout le monde, bon lundi, nous sommes le 29 juin de l'an 2020. Est-ce que ça se terminera un jour, cette année 2020, bien sûr? Que sera 2021? On verra bien, il reste encore quelques mois. Mais il y a des lueurs d'espoir à certains endroits, on va en parler aujourd'hui. En manchette aujourd'hui, il y a une famille de deux personnes décédées dans la même résidence pour personnes âgées, ne retrouvent plus les bijoux de leur mère. Qu'est-ce qui est arrivé? Un vol? Est-ce possible? Quelle indécence, si c'était le cas. CHSLD, avec ce que l'on a connu au cours des derniers mois, est-ce qu'il nous faudrait nationaliser tout le réseau des résidences pour personnes âgées? Parce que vous savez, au Québec, on est fort sur les deux ou trois vitesses. Hein? On a un système d'éducation privé-public, on a un système de santé privé-public. Est-ce que les CHSLD, ça devrait être nationalisé dans tout le réseau? Parce qu'il y a trois catégories. Il y a les CHSLD publics, il y a les CHSLD conventionnés et les CHSLD non conventionnés. On va démêler tout ça, mais j'aimerais connaître votre solution là-dessus. Pensez-vous que c'est une bonne affaire? Pourrait-on trouver un traitement à la COVID-19 ici même, à Montréal, et avant qu'il ne soit peu? On va parler à un médecin qui fait une recherche là-dessus. Et vous allez voir, c'est fort intéressant. D'abord, je veux vous parler d'une histoire dont j'ai eu vent au cours de la fin de semaine. Une histoire assez particulière. Parmi les résidences, il y a des pour personnes âgées, mais il y en a pour d'autres cas également, vous le savez, des cas lourds. Mais des cas très lourds au point où ces gens-là ont besoin d'être gavés. Ces gens-là ont besoin de soins quotidiens. Vous avez déjà vu des cas de cette nature-là où ils sont cloués à leur lit ou à leur fauteuil pour le restant de leur jour. Il y a une maman qui m'a écrit. Elle a, dû à une maladie transmise évidemment par l'ADN, et elle a deux enfants. Une jeune fille de 17 ans qui est clouée comme ça et gavée, qui ne parle pas, qui n'est pas mobile. Et un jeune garçon de 22 ans, lui aussi. Mais parlons de la jeune fille de 17 ans. Elle est donc dans une résidence qui fait partie du réseau de la santé et des services sociaux. C'est une résidence qui est située à Longueuil. Et voilà donc que ces gens qui n'ont pas de mobilité, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont là, carrément enfermés et suivis, évidemment, pour leur bien-être. Il y a une de ces patientes ou patients, qui sont cinq dans la résidence. Là. Okay? Ce n'est pas un hôpital à 15 étages. Là. Ils sont cinq dans la résidence avec un suivi de proximité. Il y a une de ces personnes-là qui a un rendez-vous médical à l'hôpital, donc les services de transport adaptés amènent cette femme-là, ça c'est un détail, mais cette jeune femme-là à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'elle est testée COVID positive. On se dit, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ils ne sortent pas, il n'y a personne. Comment ont-elles pu attraper cette histoire-là? Ça reste là. Le 24 juin dernier, la dame à qui je vais parler à l'instant apprend qu'il y a un deuxième cas dans le centre. Elle se dit, mais voyons, 2 sur 5, on parle de plus de 20%, là. Ça commence à être important. Alors, cette réalité-là lui fait craindre le pire pour sa propre fille, bien sûr, et demande, est-ce que vous testez votre personnel? La réponse, non. Est-ce pensable? On va lui parler à cette dame, elle est avec nous aujourd'hui, il s'agit de Mme Sophie Dionne, qui est mère d'une enfant, donc qui réside à la maison Desjardins, c'est à Longueuil. Bonjour Mme Dionne.
Bonjour M. Mongrain.
Dites-moi, donc votre fille est atteinte de quoi, là, pour qu'on sache de quoi on parle?
En fait, c'est une maladie génétique qui est le syndrome de Joubert. Donc, c'est un retard, un handicap sévère au niveau physique et intellectuel.
De sorte qu'elle n'a pas de mobilité, ou à tout le moins une mobilité restreinte. Est-ce qu'elle est clouée dans son lit ou dans un fauteuil?
Je vous dirais les deux. Ça va entre le fauteuil et le lit. Elle peut se déplacer en se glissant sur les fesses, mais c'est très, très, très limité, là. C'est vraiment un handicap sévère, là. On parle de non autonome pour manger, non autonome pour se, elle est aux couches. Contrairement à ce que vous avez dit, ma fille est la seule qui n'est pas gavée.
Ah, d'accord.
Dans ce foyer de groupe.
Parfait. Donc, ce foyer de groupe appartient à qui? C'est quoi ça? C'est-tu privé subventionné? C'est-tu public? Comment ça marche?
En fait, c'est public parce que c'est un centre, c'est un foyer de groupe en déficience physique qui est sous la gestion du CISMO, qui est les centres intégrés de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. Faut savoir aussi que ma fille, elle a 17 ans, donc elle est mineure. Donc, elle est prise en charge. Moi, mon fils, il est majeur et c'est depuis le mois d'août dernier que mes deux enfants, j'ai dû les intégrer. En fait, en ressources, là, on devait les placer. Et mon fils, comme il est majeur, ben là, ça, c'est toute une autre histoire.
Oui.
Pour avoir une entrevue juste.
D'accord.
Toujours.
Oui. Alors, donc, revenons au cas de votre fille, parce que je veux parler de la COVID dans cette résidence.
Voilà.
Vous apprenez un jour qu'une autre des co-patientes de la résidence, ils sont cinq, a un rendez-vous à l'hôpital, et là, on découvre qu'elle est atteinte de la COVID.
En fait, samedi dernier, là, je reçois un appel à l'heure du thé pour me dire, écoutez, on a quand même une bonne nouvelle pour vous, Madame Dionne. Votre fille a été testée, elle est négative à la COVID-19. Par ailleurs, il y a une deuxième résidente, un usager, qui l'a attrapée. Alors là, bon, je pars, je demande, est-ce que, tout d'un coup, je demande, mais coudonc, deux enfants sur cinq qui ont attrapé la COVID, ces enfants-là ne se déplacent pas, ils n'ont aucun contact entre eux.
Entre eux. Entre eux. Donc, et autres que du personnel soignant.
Ben oui, alors c'est sûr que ça a été transmis par soit le personnel infirmier ou préposé. Et là, je ne remets aucunement en doute toutes les mesures de protection.
Je
là,
comprends ça. Vous posez une question, vous dites, est-ce que le personnel est testé?
Ben voilà, et la réponse, ça a été non, parce que selon les directives de santé publique, à l'effet des foyers de groupe, ben non, c'est pas une obligation que ce soit systématique lorsqu'il y a un cas dans la résidence que le personnel soit testé. Alors moi, je raccroche, je parle de ça avec mon conjoint qui est avocat et qui lui représente des enfants mineurs à la défense des enfants mineurs. Il me dit, Sophie, ben voyons donc, il dit, à la limite, c'est criminel. On le sait que c'est des enfants, c'est une clientèle qui est hyper vulnérable et dépendante. On le sait qu'ils ont des problèmes de santé et qu'une simple grippe peut les amener très loin. Là.
Donc, excusez-moi, madame. Donc, oui. Le réseau qui est responsable de cette résidence, soit ce que vous venez de me nommer, le CISSO, CISMO, là, ça c'est toujours le fun quand il y a des affaires comme ça, des anacronismes.
Ah, c'est compliqué, oui, en effet.
Refuse qu'il y ait cela parce que la directive de la santé publique dit ben c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire dans les foyers de groupe comme ça.
Ben le refuse, en fait, je vais vous dire, c'est drôle parce que ce matin, j'ai une infirmière, justement une nouvelle infirmière de ce foyer de groupe-là qui m'a appelée. Et là, sachant que je vous avais écrit, j'ai posé plus de questions, elle m'a dit, écoutez, en ce moment, c'est le temps des allergies. Alors, si les gens éternuent ou toussent, bon, on se pose moins de questions. Deuxièmement, c'est laissé à la liberté du personnel de décider si eux veulent passer le test ou pas. Mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de dire, parce qu'eux autres, ils se fient aux directives de santé publique. Et moi, je suis tombée de ma chaise, parce que je me suis dit, c'est une population vulnérable en termes de santé.
Tout à fait. On comprend ça.
Comment ça fait qu'on n'impose pas systématiquement, lorsqu'il y a un cas, que tout le monde soit testé?
Mais surtout que là, si on parle en termes de pourcentage, on est au-delà de 20 % des gens atteints. Là. Il y a deux cas sur cinq, on s'entend. Je comprends qu'on ne revire pas à province à l'envers pour ça, là, mais ceci
mais
étant
non.
dit, chaque individu a le droit à sa sécurité, d'autant plus s'ils sont fragilisés par un état de santé qui est vraiment limite. Là.
Bien, c'est parce qu'on parle d'enfants handicapés qui n'ont aucun pouvoir de décision, qui
absolument
sont non autonomes. Je veux dire,
comment il y a d'employés là-dedans?
Oh, je pourrais pas vous dire, mais c'est des chiffres, là, des corps. Il y a des infirmières. Ben moi, à ma connaissance, il y a 3 infirmières, puis des préposés, je ne sais pas combien il y en a en tout, mais il y en a peut-être 6.
Il y a peut-être 10-12 personnes qui travaillent
ouais
là et aucune n'a été testée pour savoir s'ils étaient à risque. Même et au surplus, on sait qu'il y a des cas qui ne sont pas des cas qui sont asymptomatiques, qui sont des cas asymptomatiques. Donc, on ne sait pas si, mais ils peuvent être porteurs quand même et propager la maladie. Madame Dionne, je vous remercie beaucoup de cette mise au point. Nous avons, de notre côté, fait des appels au bureau du ministre responsable, au ministre de la responsabilité des résidences. C'est un peu mêlé, là, présentement, là, parce que tout le monde se lance la balle à savoir, c'est pas tout à fait mon ministère, moi j'ai un nouveau ministre, moi c'est pas tout à fait ça, ça doit être Karma parce que c'est des jeunes, moi c'est pas tout à fait ça parce que ça c'est des résidences, puis moi je suis ministre Blais, mais je vais peut-être m'en occuper parce que c'est des résidents. On s'entend-tu qu'on est dans le vide, pas dans la COVID? Alors, on va suivre ça, Mme Dionne. Merci. On ne lâchera pas ce dossier-là. Je vais aller voir comment ça se fait que systématiquement, dans le réseau de la santé, des gens qui travaillent auprès des malades, qui sont les plus susceptibles et les plus fragilisés, qu'il n'y a pas un test pour notre sécurité. C'est comme ça que ça a commencé. Pas de test, puis changer de staff, puis changer de place, puis les zones froides, puis les zones chaudes. Une autre aberration administrative, mais on va assurer le suivi là-dessus. Merci beaucoup. On s'arrête-tu pour une courte pause et on revient avec une autre histoire qui s'est passée aussi pénible, voire même inacceptable, dans le même CHSLD pour 2 décès.